Attention pour le décompte final.
3, 2, 1, 0.
Le vulgarisateur de l'espace.
Décollage.
Bienvenue dans l'émission Le Vulgarisateur de l'Espace, le rendez-vous bimensuel de Radio PFM où on y parle science, spatiale et tout ce qui se passe au-delà de notre atmosphère. Une émission à retrouver chaque deuxième et quatrième semaine du mois, le lundi à 22h30, le mardi à 16h, le mercredi à 4h du matin et le samedi à 14h et puis en podcast sur le site de votre radio libre et sans pub www.radiopfm.com ainsi que sur le site www.audioblog.arteradio.com. C'est Jean-François à l'animation et Honorine à la technique, à la réalisation et à la sélection musicale de ce numéro. Sans plus tarder, les titres de cette émission. Au programme, une interview de Simon Lerig, président du GAC, le groupement des astronomes amateurs de Courrières. Elle est l'unique satellite naturel de la planète Terre. Il s'agit du cinquième plus grand satellite naturel du système solaire. Elle est le deuxième satellite le plus dense du système solaire après le satellite de Jupiter. Aujourd'hui, je vous propose bien sûr de parler avec lui de la Lune. Une chronique ensuite sur la Voie lactée, nous vivons dans l'un des bras de cette vaste galaxie, nous nous y intéresserons donc d'un peu plus près aujourd'hui. Nous poursuivrons par un documentaire sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale, un documentaire toujours diffusé en partenariat avec le youtubeur Stardust. Et puis nous terminerons enfin par la rubrique des auditeurs du vulgarisateur de l'espace, c'est tout nouveau, vous posez vos questions et on y répond sur les ondes, ce sera en dernière partie d'émission. Mais pour commencer, votre rubrique actu, le 11 juillet 2021, le patron de Virgin, Richard Branson, s'envolait pour l'espace. Le 20 juillet 2021, c'était au tour de Jeff Bezos d'Amazon de dépasser la frontière des 100 km d'altitude. On fait le point sur cette course au tourisme spatial tout de suite après le jingle. Le 11 juillet 2021, à 16h41, heure de Paris, Richard Branson, fondateur de Virgin Galactic, s'est donc envolé à bord de sa navette suborbitale VSS Unity depuis le Spaceport America au Nouveau-Mexique pour un vol nominal de 50 minutes. Là-haut, l'équipage composé de 6 personnes a pu ressentir la sensation d'apesanteur durant quelques courtes minutes dès l'extinction du moteur lors de la phase balistique. Le rôle du fondateur du groupe Virgin a alors consisté à tester et évaluer l'expérience que devraient vivre les futurs clients astronautes, a priori dès 2022. À ce jour, 600 billets auraient déjà été vendus en prévente. On compte des billets achetés entre 200 000 et 250 000 dollars, des billets au nom de Leonardo DiCaprio ou encore Tom Hanks. À 17h31, lors de la phase de descente, les ailettes de la VSS Unity se sont déployées. La navette s'est alors posée sans encombre au Nouveau-Mexique. Il était 17h40. Symptomatique de la compétition commerciale que se livrent les milliardaires opérateurs du tourisme spatial, les vols de Richard Branson pour Virgin Galactic et Jeff Bezos avec Blue Origin sont séparés de quelques jours seulement. En effet, le 20 juillet 2021, la fusée New Shepard emportant Jeff Bezos, mais également son frère Mark Bezos, Wally Funk et un jeune passager de 18 ans, a décollé du Texas pour un vol habité. À la différence de la Spaceship 2 qui constitue une navette spatiale à elle seule du côté de Virgin, la capsule du fondateur d'Amazon se veut plus traditionnelle. Elle était placée au sommet d'une fusée propulsée par un moteur BE-3. Elle a suivi ensuite une trajectoire balistique jusqu'à retomber sur Terre, freinée par des parachutes. Les clients de Blue Origin ont quant à eux dépassé la ligne de carbone des 100 km d'altitude contre seulement 80 km pour la VSS Unity de Richard Branson. En matière de tourisme spatial, donc, à chacun son offre. Branson n'est évidemment pas le premier touriste spatial. Rappelons-nous les premiers passagers privés qui ont séjourné à bord de la Station Spatiale Internationale au début des années 2000. Le ticket à l'époque était compris entre 20 et 55 millions de dollars. À 250 000 dollars, vous l'aurez compris, c'est presque une affaire, même si le voyage ne dure que quelques heures. Mais de là à affirmer que Branson et Bezos démocratisent le tourisme spatial, eh bien c'est une autre affaire. Mais vous l'aurez compris, la course au tourisme spatial est lancée. Vous êtes toujours bien à bord de votre émission Le Vulgarisateur de l'Espace sur Radio PFM 99.9. On fait une pause et on se retrouve juste après.
Tombé du ciel, à travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel. Tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive. Sonnerie du réveil tombée dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle tombée du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus mal, tombé du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel, tombé du sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance. De Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mages, trafiquant d'import-export. Tombés d'en haut, comme les petits couteaux que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors le cœur en fête. Aux heures de girouette, du haut du clocher, donne à ma voix direction par où le vent fredonne ma chanson. Tombé sur un jour de chance, tombé à la fleur de l'âge, dans l'oubli sonore.
Thank you.
on poursuit avec une interview. Simon Leric, président du GAC, le groupement des astronomes amateurs de Courrières, est au micro de l'émission. Avec lui, nous y parlons de cet astre, la Lune, qui tourne autour de notre planète depuis plus de 4 milliards d'années. Elle est l'unique satellite naturel de la planète Terre. Il s'agit du cinquième plus grand satellite naturel du système solaire. Elle est le deuxième satellite le plus dense du système solaire après le satellite de Jupiter. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la Lune. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Simon Leric, président du GAC, le groupement des astronomes amateurs de Courrières. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors Simon, ma première question concerne la genèse de la Lune. C'est vrai qu'il y a de nombreuses théories autour de sa création. Est-ce que tu peux nous parler de celle qui serait la plus plausible ?
Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a plein de théories, enfin plein, quelques-unes. Et la théorie en vogue, qui a quand même l'aval de beaucoup de scientifiques, c'est un astre de la taille de Mars, qui à l'origine du système solaire serait rentré en collision avec une espèce de proto-Terre, qui aurait arraché une partie du matériau terrestre. Il y aurait eu autour de la Terre une espèce d'anneau de débris, un petit peu comme les anneaux de Saturne, mais bon, pas tout à fait pareil, bien plus dense à l'époque. Et ces débris en orbite autour de la Terre se seraient à nouveau accrétés, donc se seraient à nouveau collés les uns aux autres, pour former quelque chose de massif autour de la Terre. Et c'est comme ça que se serait formée la Lune. Donc c'est vraiment la théorie en vogue, il y en a d'autres, mais c'est pas tout à fait cohérent avec les études qu'on a pu faire de la composition de la Lune. Ce que je viens de vous expliquer, là, ça colle vraiment avec les études qu'on a pu faire de la Lune, de son orbite, et surtout de sa composition. Depuis qu'on envoie des missions lunaires, justement, depuis 50 ans, on a pu étudier le sol et le sous-sol. Bon, on n'a pas creusé très profond, hein, mais le sous-sol de la Lune, et c'est quelque chose de cohérent, parce que on retrouve des similitudes avec la composition de la Terre, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est la preuve qu'il y a quand même eu quelque chose de différent qui est venu pour former la Lune. Voilà.
La vie de la Lune, en tout cas de ce que l'on peut voir tous les soirs dans le ciel, c'est 8 phases. La première phase, c'est la nouvelle Lune, et ça termine par le dernier croissant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces différentes phases de la Lune, de ce qu'on peut voir tous les soirs dans le ciel ?
L'histoire des 8 phases, c'est par facilité, par simplicité, parce qu'en fait, il y a une infinité de phases. C'est vrai que historiquement, les calendriers des postes, on en dessinait surtout 4. Nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune, dernier quartier. Après, les phases intermédiaires, on va dire que la Lune est gibbeuse entre le quartier et la pleine Lune, et on va dire que c'est un croissant entre la nouvelle Lune et un quartier. Effectivement, d'un jour à l'autre, on va voir cette phase changer. Alors chez nous, dans le nord de la France, c'est pas toujours simple de voir plusieurs soirs de suite la Lune à cause de la météo, mais en ce moment-là, il fait plutôt beau, donc vous pouvez vous amuser à suivre la Lune dans le ciel, et vous allez voir qu'effectivement, soir après soir, si c'est une phase ascendante, on va passer de la nouvelle Lune, le moment où on ne la voit pas, à des croissants de plus en plus épais, jusqu'à un quartier. C'est ce qu'on a là ce soir, le premier quartier. Ensuite, on va basculer sur une lune gibbeuse, c'est-à-dire une lune un peu ovale, comme un ballon de rugby, en quelque sorte, jusqu'à la pleine lune, quand elle sera toute ronde. Et puis ensuite, on bascule dans la deuxième partie du cycle de phase qu'on appelle la lunaison, où la lune sera plutôt décroissante en phase, donc c'est-à-dire on va retrouver dans le sens inverse une lune gibbeuse, un quartier, le dernier quartier, et un croissant qui sera de plus en plus fin jusqu'à la fin du cycle, la nouvelle lune. Et on reboucle, après on recommence, ça dure 29 jours et demi. C'est l'origine des mois dans notre calendrier, ça, le cycle de lunaison. Ouais.
Quand on étudie un petit peu la Lune, on apprend des choses étonnantes. Par exemple, la Lune s'éloigne chaque année un tout petit peu de la Terre, et c'est une histoire de marée, me semble-t-il.
Alors marée, oui et non, en fait. Alors déjà, comment on a pu savoir que la Lune s'éloignait ? C'est justement grâce au programme Apollo. Les astronautes qui sont allés là-bas ont posé des miroirs à la surface de la Lune, et en tirant des lasers depuis la surface de la Terre, il y a 2-3 stations dans le monde qui font ce genre d'expérience, et bien avec le retour de quelques fragments de lumière de ces lasers envoyés, on est capable effectivement de mesurer avec une précision de l'ordre du millimètre la distance qui nous sépare de la Lune, et donc on a pu constater depuis cette époque que la Lune s'éloignait. Alors ça, c'est quelque chose finalement d'assez commun dans le système solaire. Quand on étudie les lunes, les autres satellites naturels des autres planètes, c'est un hasard, certains vont s'éloigner, d'autres vont plutôt se rapprocher. Mais c'est pas une particularité que la Lune de la Terre, le satellite de la Terre, s'éloigne. C'est un hasard. Il y a des cas identiques pour les lunes majeures de Jupiter, par exemple. Et puis à l'inverse, il y a des petits satellites mineurs qui, eux, ont tendance à se rapprocher de leur planète. Et au bout d'un moment, ils sont trop près, ils se disloqueront. Et puis les cailloux qui vont rester vont finalement tomber sur la surface de la planète. Nous, pour ça, on est tranquille. La Lune, elle s'éloigne. C'est 3 cm par an. Donc à un moment donné, la Lune, elle sera tellement loin qu'elle s'arrachera à l'attraction de la Terre. Mais ça, c'est dans plusieurs milliards d'années. Peut-être même que le Soleil n'existera plus et le système solaire non plus. Donc on ne verra jamais la Lune disparaître de notre ciel.
Depuis très longtemps, les hommes observent la Lune, ça remonte à un peu plus de l'Antiquité d'ailleurs, et les humains ont rapidement observé qu'à la surface de la Lune, il y avait des océans, des montagnes, des cirques, des cratères, et toutes ces curiosités ont des noms. La surface de la Lune, finalement, quand on l'étudie, c'est pas quelque chose de plat, c'est pas quelque chose de linéaire.
Alors effectivement, ça remonte surtout avec l'arrivée des instruments optiques. Donc Galilée qui observe avec sa lunette. Alors c'est pas l'inventeur de la lunette astronomique, mais il en a fait des adaptations pour des observations astronomiques. Et lui, évidemment, la première chose qu'il a fait en regardant le ciel, c'est pointer sa lunette vers la Lune. Et il a découvert des cratères, il a découvert des montagnes, il a découvert des zones sombres. Alors les zones sombres, quand on prête attention à l'œil nu, on est déjà capable de les voir. Donc à l'époque de Galilée, ces zones sombres, par analogie, avec ce qu'on connaissait sur Terre, on pensait qu'il y avait des grandes mers, des océans sur la Lune, d'eau liquide, et puis des continents. Les zones claires, pour lui, c'était les continents, puis les zones sombres, c'était des océans. Si bien que, encore aujourd'hui, même si on sait très bien que c'est pas de l'eau, les mers lunaires, c'est pas de l'eau, ce sont des grandes étendues recouvertes de laves solidifiées, de basalte. Encore aujourd'hui, on parle de mer. Mais ça, c'est en hommage aux premiers observateurs instrumentaux de la Lune. Donc, la mer de la tranquillité, il y a des lacs, il y a des marais. En fait, toutes les zones sombres à la surface de la Lune, sur la carte de la Lune, font des références à des choses aquatiques, voilà, des marais, des lacs, des golfs, etc. Alors, après, les montagnes. Les montagnes, c'est encore une fois des analogies terrestres. Toutes les montagnes sur la Lune sont des noms de montagnes terrestres. On va trouver les Apennins, qu'on peut très bien voir ce soir. On va trouver les Alpes, on va trouver le Caucase, etc. Et puis les cratères, c'est souvent des noms de personnages. Mais pour pas faire n'importe quoi, des raisons politiques, etc. C'est vachement normalisé. C'est l'Union Astronomique Internationale qui décide du nom des cratères sur la Lune. Alors des nouveaux cratères nommés, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un ou deux chaque année maintenant. Mais quand il a fallu faire des cartes précises de la Lune, on a pioché chez des médecins, on a pioché chez des physiciens, des astronomes aussi, ou des personnages, des philosophes de l'Antiquité, ce genre de choses. Donc voilà pourquoi on trouve des noms un peu étonnants à la surface de la Lune. Il y a toute une histoire, il y a tout un cérémonial, on va dire, et c'est vachement normalisé par l'Union Astronomique Internationale. On fait pas n'importe quoi pour nommer les choses à la surface de la Lune.
La sonde Clémentine, qui avait été envoyée en 1994, nous a laissé penser qu'il existait de l'eau sous forme de glace d'abord sur la Lune. Tu l'as un petit peu évoqué. On pourrait imaginer donc qu'il y a eu de la vie un jour sur la Lune.
Pas du tout. Alors effectivement, de l'eau, il y en a un tout petit peu sous forme de glace. On en trouve encore beaucoup au niveau des cratères, au niveau des pôles. Il y a des cratères au niveau du pôle nord, au niveau du pôle sud. Et le fond de ces cratères ne sont jamais éclairés par la lumière du soleil. Donc la glace qui a pu être apportée là, on suppose, par des comètes, reste là, ne fond pas. Et voilà, c'est toujours de la glace d'eau. Mais de l'eau liquide sur la Lune, il n'y en a pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc la pression atmosphérique est nulle. C'est pas comme sur Terre où on a cette transition entre le sol et l'espace. Sur la Lune, on est au sol, on a les pieds au sol, mais notre tête, elle est déjà dans l'espace, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc pas d'atmosphère, pas de pression atmosphérique, et donc évidemment pas de vie. Donc la vie sur la Lune, c'est impossible. Les sélénites de Flammarion et d'autres, ça c'est vraiment de la science-fiction. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a encore un siècle, on ne connaissait pas, on n'avait pas toutes ces connaissances sur la Lune que l'on a actuellement, mais c'est sûr et certain. Il n'y a personne sur la Lune.
Aujourd'hui, la Lune, elle revient un petit peu sur la scène médiatique et pour cause, beaucoup de programmes spatiaux ambitionnent d'y retourner. On a parlé aussi beaucoup de la composition interne de la Lune qui est composée de pas mal de minerais et entre autres des minerais qui pourraient être utilisés pour la création d'énergie. Pourquoi ce regain d'intérêt pour la Lune aujourd'hui ?
Alors bah, c'est effectivement encore une fois géopolitique, hein. Tout simplement une nouvelle course à l'espace, une nouvelle course à la Lune. Et je mets ma main coupée que le prochain astronaute à poser le pied sur la Lune sera chinois, par exemple, puisque la Chine développe depuis 10, 15, 20 ans un programme spatial très ambitieux, à la fois avec des lanceurs, avec des taïkonautes, on appelle ça comme ça là-bas en Chine. Récemment, une station spatiale uniquement chinoise est en orbite autour de la Terre. Ils envoient des robots automatiques sur la surface de la Lune. Donc ça, c'est les prémices, tout simplement, à une mission lunaire habitée. Hein. On n'est plus capable de le faire, en fait. Dans le monde occidental, aux États-Unis, en Europe, on n'est pas capable de faire à nouveau un programme comme Apollo. Trop ambitieux, trop coûteux pour l'époque actuelle. Mais voilà, c'est vraiment géopolitique. Après, l'histoire des minerais, bon là encore, on est encore dans la science-fiction, mais c'est pas vraiment vers la Lune qu'on ambitionne de trouver justement des minéraux, c'est plutôt vers les astéroïdes. Alors là, c'est encore un peu plus loin, c'est entre Mars et Jupiter. Et certains astéroïdes, effectivement, pourraient avoir des minerais intéressants pour l'industrie, voilà, que sais-je encore, sur Terre. Mais là encore, on est dans la science-fiction, hein, envoyer des foreuses sur des cailloux entre Mars et Jupiter et ramener des choses sur Terre, on en est loin, vraiment loin.
Merci beaucoup Simon. Donc Simon Leric, président du GAC, le groupement des astronomes amateurs de Courrières, était au micro du vulgarisateur de l'espace. On enchaîne tout de suite avec une chronique sur notre galaxie, la Voie lactée. Je vous rappelle au passage que le vulgarisateur de l'espace est aussi un rendez-vous chronique. Les diffusions sont chaque semaine, le lundi à 10h, le mardi à 11h, le mercredi à 14h et le vendredi à 6h45, toujours sur le 99.9. Des chroniques aussi à retrouver sur le site de votre radio préférée, www.radiopfm.com, ainsi que sur le site www.audioblog.arteradio.com.
Attention pour le décompte final.
3, 2, 1, 0.
Le vulgarisateur de l'espace.
Décollage.
La Voie lactée. Nous vivons dans l'un des bras d'une vaste galaxie en spirale appelée la Voie lactée. Le Soleil et ses planètes, dont la Terre, se trouvent dans cette partie paisible de la galaxie, à mi-chemin du centre.
La Voie lactée a la forme d'une gigantesque spirale qui tourne une fois tous les 200 millions d'années. Elle est composée d'au moins 100 milliards d'étoiles ainsi que de poussière et de gaz. Elle est si grande que la lumière met 100 000 années pour la traverser. Le centre de la galaxie est difficile à observer à cause des nuages de gaz et de poussière qui nous bouchent la vue. Les scientifiques pensent qu'elle renferme un trou noir supermassif qui avale tout ce qui passe à sa portée. À l'extérieur de la spirale principale, on trouve environ 200 amas d'étoiles en forme de balles. Chaque amas globulaire est très ancien et contient jusqu'à 1 million d'étoiles. La Voie lactée appartient à un amas d'au moins 40 galaxies. Ce groupe local comporte deux grandes galaxies en spirale, la Voie lactée et Andromède. Les autres sont bien plus petites. Elles incluent deux galaxies que l'on peut observer à l'œil nu dans les pays au sud de l'équateur. Ce sont les galaxies des nuages de Magellan, baptisées d'après le nom de l'explorateur portugais Ferdinand Magellan.
C'était le vulgarisateur de l'espace, une chronique de Jean-François Bourguin, réalisation Honorine Campagne.
Attention pour le décompte final.
4, 3, 2, 1, 0. Thank you.
Il est maintenant l'heure de votre documentaire dès à présent. Aujourd'hui, un épisode sur les 400 tonnes en orbite basse que représente la Station Spatiale Internationale. Un documentaire diffusé en partenariat avec le youtubeur Stardust.
Vous vous demandez sûrement comment on a pu envoyer un tel machin de 400 tonnes en orbite. Donc c'est sûr, on n'a pas pu l'envoyer d'un coup. Donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo sur la Station Spatiale Internationale, mais cette fois je la fais en détail.
À la base de la Station Spatiale Internationale, il y a en fait plusieurs projets nationaux. Chaque agence veut créer sa propre station. Ça commence par les Américains qui veulent créer une station qui s'appellera Freedom, puis les Européens qui veulent le MTFF, et enfin Mir-2 pour les Russes. Au fil des décennies, les pays finissent par s'unir sur un projet commun, reposant sur la coopération internationale, et on l'appellera la Station Spatiale Internationale. On décide qu'elle sera lancée à une altitude de 400 km de moyenne sur une inclinaison d'orbite de 51,6 degrés. De cette façon, vu qu'elle tourne autour de la Terre et que la Terre tourne également, l'ISS peut passer au-dessus de la majorité des zones habitées de la Terre. Cette inclinaison arrange aussi les vaisseaux Soyouz et Progress dans leurs manœuvres vers la station. Le premier module sera russe. Zarya est mise en orbite le 20 novembre 1998. A partir de là, l'ISS démarre officiellement ses premières orbites. L'assemblage des autres modules commence seulement 2 semaines plus tard quand le nœud Unity est livré à Zarya par la navette Endeavour. Puis Zvezda, lancé par une fusée Proton, s'arrime en juillet 2000. Après un peu de travail manuel d'astronautes venus en navette, l'ISS est enfin prête à recevoir un équipage. L'expédition 1, avec 2 Russes et 1 Américain, part le 31 octobre 2000 pour 140 jours à bord de l'ISS. Juste avant leur départ, l'ISS s'est vu poser la poutre Z1. Elle relie les modules pressurisés à toute la future partie énergie. Pendant l'expédition 1, 3 navettes viendront continuer la construction de la station. STS-97 posera le premier jeu de grands panneaux solaires, STS-98 s'occupera de livrer le labo américain Destiny et STS-102 fera une mission de cargo. L'expédition 1 repartira à bord de Discovery.
Alors je vous vois déjà venir et me dire « Ouais mais attendez, ils sont venus avec un Soyouz mais ils repartent avec la navette ».
Eh bah oui, car à bord de Discovery, pendant l'allée vers l'ISS, il y a 2 Américains et 1 Russe parmi l'équipage, et ils vont relayer l'expédition 1. Celle-ci rentre donc dans la navette, et l'expédition 2 s'installe à bord de l'ISS avec le Soyouz en cas de problème. En 2001, les livraisons continuent. Le bras robotique Canadarm 2 arrive à bord d'une navette, et une autre livre le sas de sortie spatiale Quest, et les Russes livrent le port Pierce pour l'amarrage et les sorties spatiales russes. Tandis que les expéditions continuent à se relayer à bord sans interruption, en 2002, on démarre l'assemblage de la poutre. Cette immense structure de 100 mètres et d'une centaine de tonnes va supporter les gigantesques panneaux solaires, les régulateurs de chaleur et énormément de systèmes électriques. Il faut donc la lancer en plusieurs morceaux. Il faudra 4 vols de navette en 2002 pour poser 3 segments de 14 mètres chacun et une plateforme mobile pour que le bras robotique puisse se balader le long de la poutre. Mais en 2003, la navette Columbia est détruite lors de sa rentrée atmosphérique. Les navettes sont clouées au sol. Bien que les vols reprennent en 2005, la fin des missions navettes est annoncée pour 2011. Il faut terminer la station. Et accessoirement, réfléchir aux moyens de la ravitailler sans navette. L'assemblage reprend en 2006 et 2007 pour poser 2 nouveaux éléments de la poutre. En fin 2007, le nœud Harmony est amarré. Un nœud est un module qui a des ports un peu partout afin d'y amarrer d'autres modules dans d'autres angles. C'est comme le croisement de plusieurs rues si vous voulez. Bref, l'ISS commence à avoir la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. En 2008, on installe le labo européen Columbus et en face démarre l'assemblage de Kibo, le labo japonais qui se terminera en 2009. En 2009 également, on termine la poutre de la station et les Russes livreront le module Poisk pour amarrer les vaisseaux Soyouz et Progress. Le 8 février 2010, la navette Endeavour décolle de Floride avec une double cargaison à bord. Il s'agit d'une Tranquility et la coupole d'observation. Les Russes envoient ensuite Razvet, un nouveau port d'amarrage. En 2011, le programme des navettes va s'arrêter. Durant leur mission de ravitaillement de la station, les navettes avaient dans leur soute un module cargo, le MPLM. Conçu par les Européens, il amenait du ravitaillement à l'aller et revenait sur Terre avec les débarras de la station. On décide qu'il pourrait être utile comme lieu de stockage permanent de l'ISS. Le MPLM Leonardo devient un module permanent et est renommé PLM Leonardo. Il faudra attendre 2016, soit 5 ans, avant qu'un nouveau module ne s'ajoute. BIM. Conçu par la société privée Bigelow, il a la particularité d'être un module gonflable. Il a été lancé plié et a été gonflé manuellement pendant plusieurs heures. Il s'est montré particulièrement résistant à l'environnement de l'orbite basse face aux dangers des débris spatiaux.
Au final, ça nous donne l'objet le plus cher de l'histoire, une station spatiale de 400 tonnes et de la taille d'un terrain de foot.
Depuis l'expédition 1, la Station Spatiale Internationale a été habitée en permanence par des humains. Cela fait plus de 16 ans que des équipages se relaient à bord.
Et actuellement, un seul vaisseau peut envoyer des astronautes sur l'ISS, et c'est le Soyouz.
Au départ, il y avait deux moyens de se rendre sur l'ISS, un Soyouz russe ou la navette américaine. Mais après l'arrêt des navettes spatiales en 2011, et depuis lors, le Soyouz, et sa petite capsule pour 3 personnes, est la seule possibilité pour rejoindre l'ISS. Ce vaisseau extrêmement fiable a fait ses preuves depuis des décennies. Lancé depuis le Kazakhstan, il peut emmener 3 personnes sur l'ISS en 2 jours. Avec de nouvelles mises à jour, c'est désormais possible de rejoindre l'ISS en seulement 6 heures. Le vaisseau comporte 3 parties, le module orbital qui sert de petit lieu de vie, le module de descente, qui est le cockpit, et le module de service qui contient les moteurs, les panneaux solaires et différents systèmes. Actuellement, si vous partez à bord d'un Soyouz pour l'ISS, vous reviendrez normalement à bord du même Soyouz. Et au retour, le module orbital et le module de service seront largués et le module de descente vous ramènera sur la terre ferme.
Mais le Soyouz a une capacité d'emport limitée. C'est sûr qu'on ne peut pas envoyer tous les vivres pour 6 mois, les carburants et les expériences scientifiques dont vont avoir besoin les astronautes pendant les 6 mois. Donc il faut absolument envoyer des cargos. Et on a plusieurs cargos non habités qui vont jusqu'à la Station Spatiale Internationale.
Le Progress, un dérivé du Soyouz totalement automatisé et qui était déjà en service à l'époque de Mir, l'HTV, cargo japonais, l'ATV de l'Agence Spatiale Européenne, qui était lancé par Ariane 5 et qui aujourd'hui n'existe plus, et les deux autres conçus et lancés par des sociétés privées, le Dragon et le Cygnus. Contrairement à l'ATV et au Progress, les cargos Dragon, Cygnus et HTV ne peuvent que se rapprocher de la station. Pour les amarrer, les astronautes doivent les attraper avec le bras robotique de la station et les amarrer manuellement. Les Progress peuvent aussi remonter l'orbite de la station.
S'il va pleuvoir...
En parlant de l'orbite, elle permet de faire un tour du monde en 1h30, de voir 16 couchers et levers de soleil par jour à la vitesse de 28 000 km/h. De par son orbite inclinée, chaque orbite se fait au-dessus d'un territoire différent, ce qui donne une trajectoire sinusoïdale si on la pose sur un planisphère.
Allez, ça tourne toujours.
L'ISS tourne autour de la Terre tourne sur elle-même, mais la Terre tourne aussi autour du Soleil. L'ISS connaît donc des saisons. Plusieurs fois par an, le Soleil ne se couche pas à bord de l'ISS. Il descend vers l'horizon avant de remonter.
Le souci à 400 km d'altitude, c'est le freinage atmosphérique. Même si on est dans l'espace, il y a encore un peu d'atmosphère.
Comme une main tendue à l'extérieur d'une voiture, l'air s'appuie sur l'ISS et a tendance à la faire ralentir, ce qui la fait descendre. Il faut donc régulièrement rehausser son orbite en allumant les moteurs du Progress. La station regagne donc de la vitesse et de l'altitude. On utilise aussi les moteurs de manœuvre pour éviter des gros débris spatiaux qui pourraient menacer la station. Cela n'empêche pas l'ISS d'être mitraillé de débris, la plupart fins comme un éclat de peinture, mais qui peuvent être potentiellement dévastateurs. Pour lutter contre ce danger, les modules de l'ISS ont plusieurs couches de blindage.
La Station Spatiale Internationale, elle est quand même bien faite. On a des ports d'amarrage qui peuvent servir pour les vaisseaux russes, les vaisseaux américains, il y en a partout. On a des panneaux solaires qui fournissent une quantité délirante d'énergie. Cette énergie, elle est stockée dans des batteries, des grosses batteries, qui permettent de faire tenir l'ISS en énergie quand elle est derrière la Terre, et donc dans la nuit. Et il y a masse de hublots pour regarder la Terre. Mais ils n'ont pas que ça à faire.
Parce que là-haut, ça travaille. L'entretien de la station et les expériences scientifiques, c'est le quotidien des astronautes sur l'ISS. Ils sont dépendants du bon fonctionnement de la station. L'eau est recyclée dans les urines et la sueur, l'oxygène aussi. Pour le reste, que ce soit la nourriture ou les vêtements propres, c'est assuré par les cargos. La nourriture est contrôlée, conditionnée, de façon à ce qu'elle survive au voyage et à la conservation, sans risquer de rendre l'équipage malade. Les vêtements neufs arrivent par cargo, et les vêtements sales repartent dans le même cargo, devenu une poubelle, qui se consume dans l'atmosphère avec les matières fécales des astronautes, et d'autres joyeusetés.
Et puis même là-haut, le sport, c'est quand même important.
2h30 de sport tous les jours de la semaine pour contrer les effets néfastes de l'apesanteur sur les muscles et les os. Et puis il y a les EVA, le Saint Graal des astronautes. Ils enfilent une combinaison pressurisée et sortent dans l'espace, la plupart du temps pour réparer ou améliorer un système de la station. D'une durée de 6h30 en général, ces sorties sont éprouvantes pour les astronautes qui ont une liberté de mouvement assez restreinte à cause de la combinaison, mais une vue imprenable. Le planning quotidien des astronautes, tout comme les sorties extravéhiculaires, sont planifiées, minutées par le contrôle au sol. Tout est fait pour optimiser le temps à bord et prévoir les problèmes. Mais ça n'empêche pas quelques ennuis. En 2013, lors d'une sortie dans l'espace, la combinaison de Luca Parmitano a un problème. De l'eau de la combinaison s'infiltre dans son casque. Il manque de se noyer dans l'espace. L'espace est donc un milieu dangereux.
Ah, l'ISS a quand même encore de beaux jours devant elle.
Les nouveaux vaisseaux habités de SpaceX et Boeing devraient entrer prochainement en service pour permettre aux astronautes de rejoindre la station sans nécessairement faire appel au Soyouz, et de nouveaux modules pourraient être ajoutés. En revanche, les systèmes de la station vieillissent et elle sera un jour démantelée et désorbitée. En attendant, elle continue à tourner autour de notre planète, habitée en permanence par l'homme.
Allez, nouvelle rubrique, vous posez vos questions et on y répond sur les ondes. Restez donc bien à l'écoute pour la question du jour.
Je m'appelle Lenny, ma question c'est pourquoi le soleil peut mourir ?
Le soleil aura une fin. Le soleil tel que nous le connaissons, il aura une fin. Alors ça, ce sont des calculs qui ont été établis à partir du modèle standard d'une étoile. On sait qu'une étoile va consommer de l'hydrogène en son cœur en le transformant en hélium par des réactions nucléaires. On connaît la masse du soleil. On sait combien d'hydrogène est transformé à chaque seconde. Donc à partir du moment où on a la masse totale du soleil et que c'est une masse finie, on se doute bien qu'à un moment donné, la fusion de cet hydrogène va s'arrêter. Et on situe ce moment dans à peu près, en gros, 4,5 5 milliards d'années à peu près. Alors, quand l'hydrogène s'arrêtera de fusionner, d'autres réactions vont s'enclencher. C'est l'hélium qui va se mettre à fusionner, donc au cœur du Soleil. Ça ne va pas durer bien longtemps, ça va progressivement, l'hélium va se transformer en carbone. Et puis après, tout ça va s'arrêter. Le Soleil sera devenu énorme, ce qu'on appelle une supergéante rouge. Et il aura englobé Vénus au moins et la surface du Soleil arrivera très près de l'orbite de la Terre. Je ne sais pas si la Terre sera encore à cet endroit-là, mais bon, c'est quand même des choses assez particulières qui vont se passer à ce moment-là. Et le Soleil, à ce moment-là, quand les réactions vont s'arrêter, l'enveloppe du Soleil va se dilater complètement, puis ensuite se perdre dans l'espace. Il restera au centre, le cœur du Soleil. Donc, c'est un objet de la taille de la Terre, à peu près. Donc c'est l'endroit où se situent aujourd'hui les réactions nucléaires. Il ne restera que ce cœur, très lumineux, qui va briller de façon très intense, mais dans lequel plus aucune réaction nucléaire ne se passera. Donc tout ce qu'il va faire, c'est se refroidir. Pour très longtemps encore, et puis un jour, il n'y aura même plus de lumière qui en émanera.
De l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi, tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient, des chansons que je sais, que je traduis pour toi, les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend, ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu, ça lui. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subit aux douze en cœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil attend. Ici, pas toi, ça plein pour sa chacune, chacun doit t'en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu, ça lui. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous, le bonheur est un astre volage. Qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous, il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici pas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu à lui. Papa dit qu'il l'a vu à lui.
« on se quitte là-dessus. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve au prochain numéro. Je vous rappelle que l'on peut retrouver cette émission chaque deuxième et quatrième semaine du mois, le lundi à 22h30, le mardi à 16h, le mercredi à 4h du matin et le samedi à 14h. Et puis en podcast sur le site www.radiopfm.com et sur le site Arte Radio dans l'onglet des audioblogs. Salut!
Attention pour le décompte final.
4, 3, 2, 1, 0.